Le journal de la rédaction vous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Pourquoi Alexandre Benalla dispose-t-il d'un passeport diplomatique? De quelle nature sont les voyages qu'il effectue dans des pays africains? Analyse dans un instant avec Stéphane Robert et Bertrand Galichet. Le cannabis thérapeutique pourrait être expérimenté en France avant la fin de l'an prochain. L'agence du médicament y est favorable. Elle veut encore consulter les experts sur les dosages et les modalités d'administration. À Madagascar, Ange Radzoel ne remporte l'élection présidentielle selon la commission électorale, mais son rival, Marc Ravalomanan, dénonce des fraudes. Nous joindrons notre correspondante, Sarah Teto. Dans ce journal également, dossier sur le viaduc de Gênes qui s'est écroulé le 14 août dernier. L'urgence est à la reconstruction du pont. Le maire promet un nouveau viaduc pour fin 2019. Quant à l'enquête, elle est en cours. Les activités d'Alexandre Benalla crispent de plus en plus l'Élysée. Selon le journal Le Monde, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron a écrit à l'ancien collaborateur du président pour en savoir plus sur son actuel travail de consultant. Et dans ce courrier au ton très ferme envoyé samedi dernier, Patrick Stroda avertit Alexandre Benalla qu'il ne peut pas se prévaloir d'une quelconque recommandation ou d'un appui tacite de la présidence. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Depuis son licenciement en juillet dernier, Alexandre Benalla s'est reconverti dans la diplomatie privée en Afrique.
Oui, c'est d'ailleurs le titre d'un article que publie le journal Le Monde dans son édition de cet après-midi, « La diplomatie privée de Benalla en Afrique ». Article qui déjà nous confirme qu'Alexandre Benalla s'est rendu au Tchad, à N'Djamena, début décembre, qu'il y a rencontré non seulement le frère du président, Oumar Déby, mais aussi le président lui-même, Idriss Déby. Il a bien prévenu l'Élysée de ce déplacement, mais pas tout de suite, après le 12 décembre, date à laquelle ce voyage a été rendu public par le journal spécialisé La Lettre du Continent. Benalla aurait donc été contraint de se signaler. On apprend aussi que Benalla est passé par le Cameroun avant de se rendre à N'Djamena, qu'il y a rencontré le chef d'état-major ainsi que le directeur de cabinet du président Paul Biya. Tous deux se seraient plaints de la froideur des conseillers Afrique d'Emmanuel Macron. Et auparavant, il serait aussi allé au Congo-Brazzaville, où il aurait dîné avec le président Denis Sassou Nguesso, celui-ci considérant que Benalla peut être utile pour faire passer des messages au président de la République française. Cette diplomatie parallèle à laquelle semble se livrer Alexandre Benalla sur fond de réactivation des réseaux de la France-Afrique, se fait apparemment, nous dit Le Monde, sous l'égide d'un homme d'affaires franco-israélien, Philippe Ababou Solomon, qui aurait décidé de le former, car depuis qu'il a été limogé de l'Élysée, Benalla serait en relation avec tout un tas d'intermédiaires opportunistes qui espèrent profiter du lien privilégié qu'il avait noué avec le chef de l'État français. Et puis il a la chance, pour faire fructifier ses réseaux, de pouvoir utiliser apparemment un passeport diplomatique qui lui avait été attribué le 24 mai dernier et dont le site internet Mediapart demande aujourd'hui comment il se fait qu'il est toujours en sa possession.
Alors un passeport diplomatique, c'est difficile à obtenir hein, et on ne l'utilise pas dans n'importe quelle circonstance. Bertrand Galichet, que sait-on du passeport diplomatique d'Alexandre Benalla?
Eh bien, la première information officielle vient d'être donnée par le Quai d'Orsay il y a quelques instants. Le ministère dit qu'Alexandre Benalla s'est engagé fin mai à rendre ses deux passeports diplomatiques, mais qu'il ne l'a pas fait. D'où les suites judiciaires envisagées par le ministère si ces passeports ont été utilisés après son éviction de l'Élysée. Écoutez ce que Alexandre Benalla a expliqué en septembre dernier devant la commission d'enquête du Sénat à propos de cette affaire de passeport diplomatique.
La délivrance de passeport diplomatique est automatique pour l'ensemble des personnels qui peuvent être amenés à se déplacer avec le président de la République. Ce sont des passeports diplomatiques qui sont délivrés pour une durée d'un an de mémoire et qui sont renouvelés de manière automatique par le ministère des Affaires étrangères dès lors qu'ils arrivent à échéance. Ça ne confère aucun avantage et tout le monde en dispose. Je crois même que certaines personnes qui appartiennent à l'intendance ou aux cuisines en disposent. C'est l'usage.
Étrangement, le passeport diplomatique d'Alexandre Benalla lui aurait été renouvelé en mai de façon automatique, après les événements du 1er mai qui ont valu à l'ancien employé de l'Élysée son licenciement. Il faut savoir que ces passeports diplomatiques sont délivrés aux diplomates et aux plus hautes autorités de l'État, qui les utilisent dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi effectivement à des fonctionnaires ou des employés de moindre rang pour des raisons de commodité. Ils ne coïncident pas obligatoirement avec une immunité diplomatique qui, elle, requiert la validation du pays concerné.
Bertrand Galichet, de nouvelles mobilisations de gilets jaunes se profilent ce week-end dans la nuit du nouvel an et courant janvier. Les mesures promises par l'exécutif ne sont pas jugées pleinement satisfaisantes. Rappelons que parmi les sujets qui ont mis en colère les gilets jaunes, il y a eu notamment le passage de 90 à 80 km/h, entré en vigueur au 1er juillet dernier. Et les manifestations se sont vengées sur les radars. Lucas Caltritti, le département de la Creuse a été tout particulièrement touché. Au début du mois, sur les 15 que compte le département, il n'y avait plus qu'un radar en état de marche.
Absolument. Alors, il n'y a pas eu de nouvelles mises à jour sur la situation, mais au début du mois, sur les 14 qui sont hors service, la moitié d'entre eux étaient totalement détruits. Les gilets jaunes les ont incendiés. L'autre moitié des radars a été soit enrubanné, soit tagué. Pour ce qui est du coût de ces dégradations, la préfecture de la Creuse n'avance pas de chiffres. Elle précise que ce sont des sociétés privées qui sont en charge de la maintenance des radars. Toutefois, la facture serait comprise entre 60 000 et 80 000 euros pour un radar fixe. Alors, avec un rapide calcul en prenant l'estimation la plus basse, ces actes de vandalisme coûteraient près de 900 000 euros et sans parler du manque à gagner pour l'État, pendant que ces radars ne flashent pas les automobilistes qui sont trop rapides. Et la colère des gilets jaunes ne s'est pas répercutée uniquement sur les radars, mais aussi sur les eurodateurs. À Guéret, la préfecture du département, de nombreux parcs-mètres ont été saccagés, les manifestants les ont remplis de mousse expansive. Le député Jean-Baptiste Moreau donne pour eux un chiffre pour les réparations, 30 000 euros, une somme très importante pour une municipalité comme celle de Guéret. Et l'élu de La République En Marche estime que toutes ces réparations vont prendre au moins 6 mois pour être réalisées. Mais pour cela, il faudrait que les gilets jaunes arrêtent de s'en prendre à ces installations.
Et des manifestants se réclamant des gilets jaunes ont empêché aujourd'hui la diffusion de journaux du groupe Ouest France. Ils ont bloqué des camions à la sortie d'une imprimerie du groupe au sud de Nantes. Le directeur des rédactions qualifie ce blocage d'incompréhensible et annonce que Ouest France va porter plainte. Il y a 2 semaines, un comité d'experts jugeait pertinent l'usage du cannabis à visée thérapeutique. Aujourd'hui, l'agence du médicament indique qu'elle souscrit à leur première conclusion et elle se dit favorable à une expérimentation du cannabis thérapeutique avant la fin 2019. Alors il ne s'agit pas encore d'un avis définitif, mais l'agence devrait confirmer sa position avant l'été, Guillemette Franquet.
En effet, Aurélie, maintenant que l'intérêt du cannabis thérapeutique est démontré pour soulager certaines douleurs, comme celle du cancer ou de la sclérose en plaques, le comité a 6 mois pour en déterminer les conditions d'usage. Quel cannabis précisément? Pour quelle situation clinique? Comment administrer la substance? Gélules, gouttes, huile, inhalation, patch, spray, vaporisation. Bref, les moyens potentiels sont nombreux. Une seule certitude, le cannabis ne pourra pas être fumé. Le joint est aussi dangereux qu'une cigarette. Le comité devra aussi déterminer comment le produire. Il s'agira peut-être de l'importer. Mais la question de sa délivrance se pose aussi. Où pourra-t-on l'acheter? Sera-t-il remboursé? Qui pourra le prescrire? Un registre de médecins prescripteurs spécialement formés pourrait être créé. En juin, après 5 sessions de travail, les scientifiques rendront un rapport. Si ces conditions sont validées par l'Agence nationale de sécurité du médicament, alors une phase d'expérimentation pourra commencer fin 2019. Une phase quasi incontournable quand il s'agit de santé publique. Les scientifiques vont alors continuer à collecter des données. Ils vont observer l'usage du cannabis à visée médicale en pratique. Reste à déterminer si cette expérimentation se fera à l'échelle régionale ou nationale. Au terme de cette phase, qui peut durer tout de même plusieurs années, l'Agence du médicament espère que toutes les conditions seront réunies pour généraliser l'usage du cannabis thérapeutique aux quelques milliers de patients concernés.
Actuellement, une 30aine de pays dans le monde autorisent le cannabis thérapeutique et parmi eux, 21 pays de l'Union européenne. À Madagascar, la commission électorale annonce la victoire d'Ange Ratzoen à l'élection présidentielle. Selon ses résultats encore provisoires, l'ancien président l'emporte largement devant Marc Ravalomanana, son ennemi de longue date, lui aussi ancien président, qui pour l'instant refuse de reconnaître sa défaite et dénonce des fraudes. On retrouve Sarah Teto à Madagascar.
Selon les résultats encore provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, Ange Ratzoen a recueilli 55,7% des suffrages exprimés contre 44,3% pour son adversaire, un écart de 526 000 voix. À 44 ans, Ange Ratzoen, celui-là même qui en 2009 avait ravi le pouvoir par la force à son prédécesseur Marc Ravalomanana, remporte aujourd'hui l'élection présidentielle malgache par les urnes. La Haute Cour constitutionnelle devrait confirmer sa victoire sous 9 jours après avoir procédé à de nouvelles vérifications et purgées juger les recours. Cette élection de 2018 sonnait comme la revanche de deux hommes qui avaient tous deux été interdits de se présenter en 2013. Une revanche qui pourtant n'a pas mobilisé les foules. Le taux de participation de ce second tour n'a atteint que 48%. Depuis le jour du vote, Marc Ravalmanan n'a cessé de dénoncer des fraudes lors du scrutin et les résultats de la CENI qu'il qualifie de non fiables. Les missions d'observation nationale comme internationale n'ont, elles, relevé aucune irrégularité de nature à remettre en cause le scrutin et ses résultats. Marc Ravalmanan, grand absent aujourd'hui lors de l'annonce, a déjà appelé ses partisans à venir dénoncer le résultat du vote ce samedi dans la capitale, sur la fameuse place du 13 mai, place de toutes les contestations.
En République démocratique du Congo, les élections sont prévues dimanche, mais la situation est très tendue. Une partie de l'opposition a lancé un appel à la grève générale demain pour protester contre le report du vote dans deux régions. C'est dans ce contexte que le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, est rentré au pays. Un retour triomphal pour l'homme qui répare les femmes. Il a été accueilli par plusieurs milliers de personnes en liesse. Écoutez le reportage d'Anthony Fouchard à Kavumu, dans le sud Kivu.
Denis Mukwege, écharpe aux couleurs de la République démocratique du Congo autour du cou, doit se frayer un chemin pour sortir de l'aéroport de Kavumu. Atterrir dans cette ville, c'est tout un symbole. C'est ici que 42 fillettes, certaines âgées de moins de 2 ans, ont été violées entre 2013 et 2016 par un responsable local et sa milice. Des jeunes filles que le docteur a inlassablement réparées, reconstruit tant bien que mal. Un symbole donc à la fois de l'abnégation de Denis Mukwege et de l'horreur que les habitants de la région de l'Est du Congo endurent depuis des années. De l'aéroport de Kavumu jusqu'à Panzi, l'hôpital, il y a un peu moins de 40 km, mais il aura fallu plus de 3 heures à Denis Mukwege pour les parcourir. À l'intérieur de sa voiture, fenêtre ouverte, il serre toutes les mains qui se tendent, remercie les centaines de femmes qui chantent son nom au bord de la route. Lors de son discours à la cérémonie du prix Nobel il y a quelques semaines, il n'avait pas mâché ses mots à l'encontre du régime en place, qu'il accuse de passivité dans la lutte contre l'impunité. Menacé, Denis Mukwege a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Il vit depuis plusieurs années sous la protection permanente des casques bleus.
Anthony Fouchard. Le régime syrien remporte une victoire diplomatique. Les Émirats Arabes Unis ont rouvert aujourd'hui leur ambassade à Damas. Elle avait été fermée en 2011 en soutien à l'opposition syrienne. Les explications d'Aurélien Collier à Beyrouth.
Un homme en train de raccrocher le logo des Émirats Arabes Unis sur la façade de l'ambassade, c'est l'image du jour à la télévision syrienne. Après 7 ans de conflit, 7 ans de soutien à l'opposition à Bachar al-Assad, virage à 180 degrés pour les Émirats, imposé par le réalisme de la politique internationale. Grâce à l'Iran et surtout à la Russie, Bachar al-Assad n'a pas été renversé, il a gagné sur le terrain et il est en train de gagner diplomatiquement, devenu incontournable pour les nouvelles priorités des Émirats. D'un côté, contenir l'Iran chiite qui a utilisé son soutien à Damas pour s'implanter en Syrie, de l'autre endiguer l'influence turque et l'islam politique du président Erdogan proche des frères musulmans mais honni par Abu Dhabi. Sur ces deux points, Abu Dhabi est d'ailleurs au diapason avec les deux autres poids lourds du monde sunnite, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Bachar al-Assad, lui, peut se frotter les mains et remercier l'allié russe qui œuvre en coulisses pour que la Syrie retrouve sa place dans le concert des nations arabes. Au début du mois de décembre, il avait déjà reçu le président soudanais, premier chef d'État arabe à lui rendre visite depuis le début de la guerre civile. Un consensus existe aussi au sein des pays de la Ligue arabe pour que la Syrie soit réintégrée à l'organisation régionale après en avoir été exclue en 2011.
Retour maintenant sur l'une des catastrophes les plus impressionnantes de cette année 2018. Le 14 août dernier, le viaduc de Gênes, principal pont de la ville, s'est écroulé. L'effondrement a fait 43 victimes, dont 4 françaises, et plusieurs centaines de personnes qui habitaient dans des immeubles situés sous le pont se sont retrouvées sans logement. L'enquête est en cours et les causes de l'accident ne sont pas déterminées précisément. Parallèlement, Gênes, premier port d'Italie, se relève progressivement. Le fameux architecte Renzo Piano, originaire de la ville, a dessiné un nouveau pont et c'est son projet qui a été retenu. Les autorités promettent que le nouveau viaduc sera terminé dans un an. Mathilde Imberti est retournée à Gênes 4 mois après la catastrophe. Reportage.
Après des semaines de chômage technique, l'entreprise Ferrometal s'est enfin remise en mouvement. Le site se trouve à quelques mètres de ce qu'il reste du pont côté ouest. Le 14 août, à 11h36, les caméras de vidéosurveillance ont tout filmé. Andrea Altare était l'unique ouvrier présent.
J'étais en train de décharger du matériel dans l'entrepôt. J'ai entendu un grondement. J'ai cru que c'était un coup de tonnerre. En fait, c'était le pont qui s'écroulait. Il y avait ces voitures suspendues et puis celles qui tombaient dans le vide. Au tout début, tu ne réalises pas vraiment, et puis avec le temps, tu accuses le coup, ton entourage est paniqué, les enfants font des cauchemars. La vie change du tout au tout, tu dois te lever 2 heures plus tôt pour commencer ta journée. Ce pont, ça fait 30 ans que je conduis, 30 ans que je le traversais.
Sans le pont Morandi, Gênes se retrouve coupé en deux. Il était l'axe principal, celui par qui passaient toutes les marchandises. Les entreprises déplorent des pertes supérieures à 400 millions d'euros. Ferrométal, situé en zone rouge, est en sursis, alerte son patron Giovanni Cassano.
Notre production à nous a chuté de 30%. Nous travaillons les chutes de métal de l'industrie locale. Nous les envoyons aux aciéries pour la refonte. Nous étions les plus gros de la région. Mais si nous n'avons plus d'espace pour travailler, je ne sais pas ce qu'on va devenir.
L'Italie a débloqué 1 milliard d'euros pour Gênes, pour les indemnisations, l'aménagement de nouvelles routes, la démolition des restes du viaduc. Elle démarrera par la rive ouest, car à l'est, ce sont des immeubles entiers qu'il faut dans un premier temps mettre à terre. Cette zone dite « zone noire » où nous avions rencontré Giuseppe Rondino juste après la catastrophe. Aujourd'hui, avec sa femme, il vit dans un 3 pièces proposé par la ville.
Lentamente, durato un po' perché non ci siamo visti l'ultima volta.
Oui, ça va un peu mieux. Quand on s'est vu la dernière fois, on n'avait pas de toit, c'était la panique. Certains étaient logés à l'hôtel, d'autres chez des proches. Moi, j'ai vécu 2 mois chez ma fille. Depuis, la ville s'est activée pour trouver un logement à tout le monde. Mon ancien immeuble est en zone noire. En tout, ils vont détruire 7 immeubles, soit 150 appartements à peu près, qui se trouvaient vraiment pile sous le pont.
Che dovranno essere abbattuti perché sono proprio sotto il ponte.
Giuseppe e i suoi anziani voisins se regroupent encore, même en plein hiver et dans le froid, sous les grandes tentes temporaires dressées dans l'urgence. Leur seul lieu de retrouvailles désormais, des Génois modestes, à l'image de Giuseppe Marinelli, qui vivait sous le pont sans crainte aucune.
Poteva essere qualsiasi ponte, ma non questo.
On n'a jamais eu peur. Pour nous, tous les ponts pouvaient s'effondrer, mais pas celui-là. Quand c'est arrivé, ma fille me cherchait, elle hurlait, le pont s'est effondré. Et moi, je disais, mais quel pont ? À Ostrade, nous rassurer. Un mois avant, lors d'une audition publique, il nous disait encore que le pont allait très bien. La tranquillité, je la retrouverai peut-être, mais quand la justice aura été rendue.
Le nouveau viaduc sera certainement déjà érigé avant que la moindre décision de justice n'ait été rendue. Le maire l'a promis pour la fin 2019. Il sera construit selon les plans de l'architecte Renzo Piano. D'ici là, Gênes vit en supportant les images d'apocalypse, revenant en flashback, la circulation chaotique et dans le champ de vision en permanence, ces deux bouts de pont suspendus du face-à-face à 50 mètres de hauteur, avec au milieu un trou béant.
Mathilde Imberti, correspondante de France Culture en Italie. Devenir la première personne de l'histoire à traverser le continent antarctique d'une côte à l'autre, en solo, sans assistance et sans aide, c'est l'objectif que s'était fixé l'Américain Colin O'Brady, ancien triathlète professionnel. Eh bien, à 33 ans, il vient de réaliser cet exploit. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie.
Colin O'Brady a parcouru près de 1600 km en 54 jours dans les terres gelées, glacées de l'Antarctique.
Comme le Norvégien Amundsen en 1911, qui devança d'un mois son rival malheureux Robert Scott, O'Brady n'était pas seul sur la banquise en cet hiver 2018. L'Américain s'est retrouvé en concurrence avec un capitaine de l'armée britannique, Louis Rudd, qui s'est fait larguer au même point de départ, à quelques kilomètres seulement de O'Brady, le 3 novembre dernier. Les deux hommes sont donc partis de Messner Point, à 911 km du pôle sud, et quelques presque 1600 km de leur point d'arrivée, et ils ont ensuite cheminé séparément. C'est donc le jeune athlète de 33 ans qui remporte cette course folle. On dit que son concurrent se trouve encore à 2 jours de marche de lui. Avant son départ, beaucoup pensaient que O'Brady et Red ne pourraient pas transporter assez de nourriture pour survivre, là où la température peut chuter à moins 40 degrés, même si décembre est l'un des mois les moins froids sur la banquise. Les deux concurrents ont transporté des skis de rechange, des vêtements en double, de quoi absorber 8000 calories par jour et surtout des panneaux solaires dépliables. Ces derniers leur ont permis de rester en contact satellite avec le staff qui les soutenait à distance, de poster aussi des photos et de tenir une sorte de blog pour O'Brady. Ils auraient pu également 24 heures sur 24 en cas de malheur contacter des secours, ce qui n'ôte bien entendu rien à leur exploit. O'Brady entre donc dans l'histoire, mais ce n'est pas la première fois. En 2016, il avait réussi à enchaîner en 132 jours seulement l'ascension des sommets les plus hauts du monde sur les 7 continents.
Tara Schlegel. Quelles sont les conséquences économiques du réchauffement climatique? L'organisation humanitaire Christian Aid a voulu répondre à cette question. Et selon son rapport, sur la seule année 2018, les 10 catastrophes les plus graves dues au changement climatique ont causé au moins 74,4 milliards d'euros de dégâts. Elle cite les ouragans qui ont frappé les États-Unis, les Caraïbes et l'Amérique centrale, les feux de forêt en Californie ou encore les inondations au Japon et dans le sud de l'Inde. Les conséquences du changement climatique ne sont plus minimes, souligne l'ONG. La seule chose qui puisse empêcher cette dérive destructrice est une baisse rapide des émissions de carbone. Demain vendredi, le temps sera souvent gris. La journée sera plus agréable sur les régions méditerranéennes. Le matin, dégelé sur le nord-est. L'après-midi, il fera 0 à 10 degrés sur la moitié nord, 8 à 12 des départements charentais aux plaines du sud-ouest, 11 à 15 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Chloé Leblond.